Family Prix.
Il aurait pu, je dis bien, ne faire que ça, qu'on s'en serait souvenu toute sa vie. Mais il a fait beaucoup plus que « Aha! » Family Prix. Notre invité ce soir, Sylvain Marcel.
Bonsoir.
Bonsoir, Sylvain.
Salut, Sylvain.
Bonsoir.
Et nous sommes en direct sur Facebook, si vous voulez le voir. D'ailleurs, vous allez voir quelqu'un qui
est là.
Oui, okay. En très belle forme, ça paraît physiquement et mentalement, ça, il va nous le dire. Mais... Non, t'as l'air en forme, Sylvain.
Merci, j'ai un peu de poids de prix.
Ça se perd.
Il va falloir la perdre, là. Si tu veux. Ça peut pas être parfait.
Sylvain a écrit un livre choc, un livre qui tutoie le lecteur, donc un livre de proximité, moi j'appelle ça, que j'ai lu, que j'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Aidez-moi. Il parle de ces années difficiles de dépendance, les deux mots les plus importants de ta vie, Sylvain.
Ouais. Oui, en fait, c'est arrivé en 2009. Je devais rentrer travailler pour faire ce qu'on appelle une post-synchro, reprendre ma voix sur un rôle que j'avais joué. Et j'ai pas été capable d'y aller. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis j'ai dit là, aidez-moi, fermez-moi quelque part, barre à la porte, puis check à clé, là. Je peux plus consommer, puis je peux plus arrêter.
Et là, c'était, comme on dit, arrivé à un croisement de chemin. Après une existence où tu réussissais quand même à aller travailler, tu réussissais quand même à bâtir cette carrière que tu avais rêvé.
Oui.
Malgré tout, donc, jusqu'à ce qu'il y ait ce point de rupture que tu oublies le rendez-vous de post-synchro pour le film de Bernard Raymond.
Oui.
Mais ça a commencé il y a longtemps avant. Même quand tu étais jeune, tu étais un excessif. Quelqu'un qui n'était pas capable de s'arrêter à...
Ouais, puis tu sais, je me disais, j'ai pas de volonté, je suis paresseux. Puis c'est pas ça, c'est juste c'est une maladie. Ça a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, mais moi, je sais pas ça. Je suis pas au courant de ça. Mon déni est tellement fort que j'oublie que mon père a fait d'alcoolique anonyme. J'ai complètement oublié ça. Donc, en thérapie, j'ai fait le saut quand j'ai su que ça existait, qu'il y avait peut-être de l'aide pour moi, tu sais.
Quand tu dis... J'étais paresseux, j'étais... Est-ce que ce sont des choses que tu as entendues puis que tu t'es appropriées? On te disait ça, jeune enfant, parce que tu parles de ton enfance puis tu évoques ton entourage. En fait, tu évoques une enfance qui est plutôt difficile.
Ouais.
Puis on parle de Charlemagne, c'est-à-dire Charlemagne où tout a commencé, parce que tout commence là, quelque part, souvent, par intimidation, tout ça. On t'a peut-être mis ces idées-là dans la tête, des fois, où t'es pas bon, t'es bon.
C'est souvent ce qui arrive. En même temps, aussi, c'est une ville qu'on sait pas, mais très violente à l'époque. Il y avait les Cotroni qui habitaient à Repentigny, là. Fait que contrôlaient pas mal l'est de la ville de Montréal, tout ça. Moi, j'ai vu un monsieur se faire casser deux jambes dans la rue. J'avais 5-6 ans, là. Fait que c'était le quotidien un peu chez nous. Donc, des parents très absents, il y avait un dépanneur. De 8h le matin à 10h le soir.
Il était au dépanneur.
Il travaillait. Fait que je voyais pas, tu sais. Donc, on était dans la rue, tu sais. Fait que on a une enfance qui est pas facile, mais en même temps, c'est aussi une allergie que j'ai. J'arrive pas à l'alcool, à tout ce qui modifie le comportement, je digère pas ça. Je digère pas bien, puis je deviens un peu fou. Je pars chercher une peine de lèvres, je reviens 3 jours plus tard, tu sais.
Okay, ouais, donc,
mais c'est ça. Ça fait là. Je reviens avec la peine de lèvres, alors.
C'est ça. Il y a au moins ça.
Oui.
Mais il y a un passage où tu écris une vérité que tous les gens qui ont eu à vaincre leurs démons, leur dépendance, se font dire ou réalisent à un moment donné. Tu dis, quand on est dépendant, l'alcool, la drogue, peu importe le choix de la substance, il est plus difficile pour nous d'être dans un passage heureux de notre vie qu'un passage malheureux. Autrement dit, un dépendant est habitué d'être malheureux, triste, dans une situation pas agréable. Et lorsqu'il est heureux, c'est là qu'il est le plus vulnérable. Parce qu'il va chercher à, je sais pas, détruire ce passage là où les choses vont bien et s'annoncent bien pour lui.
À saboter. Moi, je fais une fraternité anonyme. Ça fait 9 gâteaux que je prends. Je prends un gâteau chaque année. Moi, je fête plus ça que ma fête. C'est plus important le 28 septembre que le 2 décembre, moi. Puis je prends mon gâteau à chaque année mais toujours en arrivant proche de mon gâteau, j'ai comme envie de saboter. Pas aller consommer, pas juste comme, je sais pas, je suis habitué de saboter.
Comment expliquer ça? Parce que c'est le trait de caractère de beaucoup, 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 même je dirais presque la plupart des gens qui sont dépendants d'une substance. ils arrivent, mettons, à un moment là où les choses commencent à être en place. Ouais. Leur rêve s'approche. Toi, ton rêve, c'était évidemment d'être acteur, ouais, comédien, ouais, homme de théâtre. Et les choses se placent bien pour toi, une, ouais, après l'autre. Les dominos commencent à tomber. Et on dirait qu'au moment d'aller récolter, faire la récolte,
ouais,
boum, faut saboter.
Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est-tu la façon que j'ai été élevé. Est-ce que c'est mais aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Ça va mieux, tu sais. Mais
oui, parce que t'es.
Mais c'est ça.
T'es abstinent, ouais, depuis 9 ans, 10 ans maintenant.
Oui, ouais, mais il faut que je me surveille parce que c'est pas long que si je fais pas un meeting, ces choses-là, c'est pas long que ça repart. T'sais.
Ne pas vouloir rentrer dans les rangs, ça pourrait-tu être ça?
Oui, il y a ça. Puis dans le fond, tu te rends compte que c'est bon d'être dans un meeting anonyme, je me rends compte que je suis pas tout seul. C'est beaucoup plus agréable que d'être un espèce de loner, parce que là, tout seul avec mes idées, c'est pas une bonne idée.
Oui, mais c'est drôle parce que tu parles de la thérapie. En fait, quand t'es arrivé, tu voulais pas enlever ta casquette. C'est-à-dire, ouais, que tu voulais pas enlever ta casquette et tu voulais
honte.
Pas aller au premier meeting.
Non.
Puis là, ils t'ont dit, regarde, tu viens ou tu t'en vas.
Ah, puis ça, c'est épouvantable pour moi. Là. C'était comme me dire, on va te fusiller. Là. Et il fallait pas que je sorte. Là. C'était, ouais, c'était épouvantable parce que je savais que j'allais retourner. À ce moment, c'était sûr. T'sais. Donc, il fallait vraiment là, que... J'étais obligé d'y aller. J'ai allé. Puis aujourd'hui, j'adore ça. Moi,
aujourd'hui, tu donnes des conférences.
Oui, je donne des conférences, c'est... là-dessus. Au début, on veut pas en parler, hein, parce que on veut pas que les producteurs le sachent. On veut pas. Mais aujourd'hui, moi, j'arrive une demi-heure d'avance sur un plateau.
Oui.
Je prends un café, je jase avec tout le monde. Je sais mon texte. Extraordinaire. C'est le paradis aujourd'hui, à comparer à j'étais en survie, en fait.
Est-ce que tu t'es... T'as nui beaucoup à ta carrière d'arriver en retard sur les plateaux, Est-ce que t'as nui à ta carrière? Est-ce que tu sens encore les contre-coups de ça?
Non, je pense pas aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup mieux. Le mot se passe plus que Sylvain Marcel, c'est pas son texte. T'sais. Parce que son cerveau, il est pas capable de... Puis je pensais que j'avais perdu la mémoire, c'est revenu rapidement, heureusement. T'sais. Mais mon cerveau, il pouvait pas... J'étais épuisé. C'est 30 ans de consommation. Là. C'est beaucoup. Là,
et ouais, au bout de ça, non seulement... finalement, tu demandes de l'aide. Tu, ouais, obtiens l'aide. Tu te rends un endroit formidable à la Noraie,
ouais,
nouveau point de vue. Et puis, après 28-29 jours, tu as fait un cheminement extraordinaire. Tu rêvais d'un bateau. Le bateau, ouais, est apparu.
Ouais.
C'est quasiment comme le navire fantôme là, qui apparaît.
Des fois, j'ai comme prié pour ça, mais je l'ai eu. Pour moi, c'est un signe.
C'est assez incroyable, ouais, ça, dans le livre.
Ouais.
Que, en tout cas, bon, il est apparu et, ouais, tout ça. Et puis, tu penses que tout va bien. Et combien de dépendants connaissent l'épouvantable rechute qui fait,
ouais,
partie, qui fait partie de,
ouais,
qui fait partie de tout. Il y en a qui ont fait 12 thérapies et,
ouais,
puis qui ont fait 14 rechutes.
Ouais.
Et puis qui ont parti avec 12 thérapies, c'est jamais garanti. Mais cette rechute-là t'a fait, ouais, très peur. Elle t'a fait très peur.
Elle a fait juste assez mal. Souvent, il y a des gens qui rechutent, qui reviennent dans les meetings, tout ça, puis je leur demande toujours la même question. Ça a-tu fait assez mal? T'sais, parce que...
Et toi, t'avais peur du craving.
Oh,
et ça, là, le craving, il y a un terme, évidemment, qu'on va dire, cette espèce d'état de manque.
Oui, exactement.
Ça, tu l'as vraiment eu peur.
C'est la pire chose qui peut arriver. Je m'en rappelle encore aujourd'hui, puis ça me trouble encore aujourd'hui de savoir cette espèce d'effet. C'est comme si on est couché, on est sur le bord, s'endormir, on rêve qu'on marche puis qu'on s'enfarge, là. Tu sais, le corps fait comme ça de même.
Ouais.
Mais là, je faisais ça à journée longue. Le corps réagit au manque. De cette façon-là, c'est insupportable. C'est vraiment... C'est comme si je tombais tout le temps.
T'sais. Donc, c'est vraiment... Parce que... Puis, tu dis à un moment donné, moi, quelque chose qui m'a... T'avais un calepin de mensonges.
Ouais.
Non, mais c'est parce que un calepin de mensonges...
Ouais.
Pourquoi?
Pour être sûr de ne pas me tromper. Je m'étais trompé une fois dans mes heures. Dans...
C'est pour pas te tromper, ouais, dans tes menteries.
Oui, un dépendant, c'est pas quelqu'un de très, très honnête dans tous les points de vue.
Pas très précis, en tout cas.
Oui, ben, je m'étais trompé dans mes heures avec mes répétitions de théâtre, ces choses-là, avec la blonde de l'époque. Et j'ai fait qu'il ne faut plus jamais que je me trompe. Donc, j'ai fait un petit calepin avec les heures et j'ai appris par cœur tout ça pour pouvoir Puis elle l'a caché, évidemment. Là, que, ouais.
Écoute, on va faire une courte pause. Ouais. Et avant d'aller à la pause, on va parler aussi de ta carrière quand même,
ouais.
Que tu as mené souvent en parallèle et au détriment de la carrière et de la forme physique ou mentale que tu pouvais avoir, ouais. Cet problème de dépendance. On va quand même souligner un personnage extrêmement important de ta carrière, Sylvain Marcel, qui était le sergent Hull.
Ouais.
Bien sûr, ouais. On va l'écouter.
On tape pas sur un pompier. Tout le monde aime les pompiers. En plus, étiez-vous vraiment obligé de finir le capitaine à deux? On tape pas sur un pompier. Ben, retournez dans votre chambre.
Une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision, vous en convenez, Madame Parisien, vous qui êtes experte là, de la TV.
Oui, absolument.
Un des personnages les plus imprévisibles.
Les plus sombres et à la fois, c'est vraiment imprévisible.
Le sergent Hull, joué par notre invité Sylvain Marcel, qui en a discuté avec Pods, qui lui a dit, écoute, à la fin de la série, là, avec ton personnage, il y a une bombe.
Ben, en fait, ce qu'il m'avait dit, Pods, la première lecture qu'on a fait à table, là, tous les acteurs, il m'a dit, tu vas... Tu fais le sergent Hull, juste te dire, c'est la taupe. C'est lui qui va, dans la deuxième ou troisième saison, c'est lui qui va se faire prendre parce qu'il est pédophile. Donc, je le savais dès le début. et ça a été... Puis là, il dit, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va, on va s'arranger pour qu'il t'aime tellement, là, qu'il aime tellement ton personnage, que quand ils vont avoir la nouvelle, ils vont être à terre. Puis en plus, on va leur sacrer un coup de pied, un bon coup de pied une fois à terre parce qu'on va leur dire qu'il est pédophile en plus. T'sais. Fait qu'il dit.
Et qu'on a passé
deux saisons à vous faire aimer
ce personnage-là.
Oui. Oui.
C'est pas fin, hein?
Non, mais, puis avoir de l'affection pour lui.
C'était fin, hein? Tout le monde parlait rien que de ça.
Ouais.
Cette scène sur le quai. Tu sais, la scène sur le quai.
C'était
absolument hallucinante, une scène mémorable.
Oui, oui.
Toi, quand tu as commencé, donc, tu savais ce qui s'en venait. C'est-à-dire, on t'avait dit ce qui s'en venait.
Ouais.
Ça a teinté ton jeu, comment? Ça peut pas.
C'est, ben moi, tu sais, j'avais tous les gens, dans la deuxième saison, surtout les gens qui disaient, mais c'est qui la troupe? C'est, ah, d'après moi, c'est lui, d'après moi, c'est l'autre.
Les gens t'en parlent.
On s'est tous fait avoir. Je parle de téléspectateurs.
Ouais.
Aurais-tu aimé ça jouer dans District 31?
Ben, c'est sûr. Moi, c'est évident que je regarde ça et je fais waouh, tu sais, parce qu'en même temps, mais c'est de niveau olympique là ce qu'ils font là parce que c'est 4 soirs/semaine.
Ah, oui.
Donc c'est du texte énorme. J'ai vu Michel Charrette à un moment donné qui avait à peu près 200 pages de texte à apprendre pour la semaine là,
tu sais. Ouais.
Les codes d'écoute sont de nature olympique aussi.
Oui, aussi.
C'est génial. Oui, vraiment, c'est sûr que ça me plairait beaucoup.
Ton personnage préféré, je pense, est dans la série Mensonges.
Oui, c'est Bob, oui.
Bob Crépeau.
Ouais,
Bob Crépeau de la série Mensonge.
Mais j'en parle, je souris.
Ben oui.
Qui était un peu collé sur toi?
Ben oui, c'est un alcoolique. C'est quelqu'un qui a un problème de dépendance à l'alcool. Il a un problème de dépendance affective avec Cindy et puis Carla. T'sais. Fait que il était un peu mêlé. T'sais. C'était un bon policier. C'était un homme droit. T'sais. C'était un homme bon, c'était un homme droit. C'est ça. Moi, je trouvais que ça m'a fait. J'ai un deuil. Moi, j'ai
c'est
un deuil vraiment de finir ça.
Dans son
là.
Travail, il était parfait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de droit, bon policier. Dans sa vie privée, c'était le bordel.
N'importe quoi.
Un peu comme tu dis dans ta vie, que tu racontes dans le livre, Aidez-moi. C'est un peu ça, ta
c'est
vie.
C'est tellement n'importe quoi.
souvent ça se finissait à 7 heures le matin et puis dormir jusqu'à 4-5 heures l'après-midi. Puis il travaillait quand même pareil.
Oui, c'est
comme
ça.
Préposé aux bénéficiaires.
Oui.
Et ça paraissait pas.
Ben, ça. Non, c'est pas. Non, ça a paru.
Non, mais ça use le système.
Je me suis fait accueillir à l'hôpital, moi, avec 180 de poux. J'avais trop pris.
Trop consommé. Tu travaillais à l'hôpital, tu étais client de l'hôpital, c'est-à-dire patient.
De propre hôpital où je travaillais, ça, à l'urgence, en plus.
À
la honte. J'ai pas arrêté. Il me semble que t'arrêtes dans ce temps-là. Non, j'ai pas arrêté. Ça m'a pris encore des années avant de.
Il nous reste peu de temps. Oui. Sylvain, tout ça est derrière toi. Je te pose la question quand même. C'est important. Là, il t'arrive encore de belles choses. Tu vas jouer le rôle d'un célèbre impresario qui a marié la plus grande chanteuse du monde. Et parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Fait que je sais.
T'es bon.
C'est pas trop mal.
Ouais.
Alors, dis-moi une chose.
Ouais.
As-tu peur de la rechute? Ou si tu dis, non, regarde là, je traverse, j'ai ma présence supérieure en moi, je suis assez fort. Comment tu vois ça?
Ben, écoute, je suis bien entouré. Je suis porte-parole pour le Centre des traitements des dépendances, le Richer, d'ailleurs. Fait que je suis super bien entouré. Ça serait vraiment ridicule de retomber, t'sais. Avec le livre et tout, là, je suis en mode aide à ce temps-ci.
Aidez-moi aux éditions La Semaine. Merci beaucoup, Sylvain Marcel.
Merci.
Au revoir.
Merci.